T'as une carrière assez fabuleuse. Pour les gens qui connaissent l'aéronautique, il faut savoir quand même que tu as commencé sur le Nord Atlas et que tu as terminé sur la 400. Donc c'est quand même un panorama exceptionnel. C'est le résumé d'un siècle.
Bonjour à tous, je suis très très heureux de vous retrouver aujourd'hui sur le plateau de Jump Seats. Effectivement, aujourd'hui, on a un sujet qui va les intéresser, qui intéresse toute la communauté aéronautique. C'est donc la 400M.
Le sujet est intéressant et l'invité aussi est encore plus passionnant, je crois. Eric Isors, qui est à ma gauche. Bonjour Eric.
Jusqu'à il y a 3 ans, tu étais le directeur des essais en vol chez Airbus Defence and Space. Donc, c'est la branche militaire d'Airbus. À ce titre-là, bon, tu as porté le développement du programme A400M, l'avion de transport militaire. Tu étais l'ingénieur des essais en vol du premier vol.
Tout à fait, exactement. Je faisais partie du premier équipage avec Estroman, Nacho Lombo, Didier Ronceret et Jean-Philippe Côté. Et Gérald Escarpit, le mécanicien navigant.
On va faire un petit saut dans le temps déjà, mais est-ce que ça se demande de faire partie de l'équipage du premier vol? Est-ce qu'on est désigné? Comment ça se passe? On reviendra un petit peu en arrière après ta carrière, mais je reste là-dessus.
Ça ne se demande pas. Oui. On est désigné, mais on l'espère. Je pense que c'est le rêve de tout navigant d'essai, tout pilote d'essai, ingénieur navigant d'essai. Le rêve, c'est de faire un premier vol sur un avion mythique comme ça. Dans une entreprise, il n'y a pas 50 programmes. Donc effectivement, il y a eu la 310, il y a eu le Beluga, il y a eu la Caravelle, le Concorde, il y a eu la 320, le 330, 340, le 380, un avion gigantesque. Et après, il y a eu la 400M. Et après, le 350, 320, oui. Neo, etc. Tout ça, c'est des programmes, tu te dis, j'espère que j'en serai.
Et oui, parce qu'il n'y a pas 50 opportunités.
Mais tu n'es jamais sûr de ça. Jamais sûr de ça.
Donc, quel poste tu occupais à l'époque de ce programme?
En fait, j'étais responsable de l'équipe d'essai et de développement du programme A400M. Donc j'avais été nommé en 2005 par Claude Lelay. Donc j'ai commencé comme ça et ensuite, tout naturellement, j'ai été proposé pour le premier vol. Et j'étais avec Ed Stroman qui était là depuis le début avec moi, depuis 2005. Puisqu'à l'époque, en 2005, donc, on a été nommé tous les deux. Ed, c'était le pilote anglais d'essai qui avait rejoint Airbus quelques années plus tôt, qui avait fait comme moi, avait essuyé ses culottes sur les avions civils pour ensuite prendre la main sur le programme militaire. Tous les deux, on a été l'équipe première des essais en vol de la 400M.
Alors là, c'est peut-être bon de faire un petit peu de machine arrière et d'expliquer d'où tu viens, parce que tu as une carrière assez fabuleuse. Pour les gens qui connaissent l'aéronautique, il faut savoir quand même que tu as commencé sur le Nord Atlas et que tu as terminé sur la 400. Donc c'est quand même un panorama exceptionnel. C'est le résumé d'un siècle.
Effectivement. Moi, j'ai commencé sur Nord 2501 comme intercepteur radar. J'astiquais les couloirs de Berlin en avion en Nord 2501 et on remontait l'ordre de bataille électronique. C'est-à-dire qu'on écoutait les radars des conduits de tir solaires du bloc soviétique.
Alors, il faut expliquer que Berlin, effectivement, était relié à c'était une île au milieu de l'Allemagne de l'Est, qui était reliée à l'Allemagne de l'Ouest par trois couleurs, deux ou trois couloirs.
Trois couloirs, nord, central et sud.
Dans lequel les Occidentaux avaient le droit de passer.
Tout à fait, et nous aussi, avions militaires, on avait un vol logistique, soi-disant, mais en fait, on faisait de l'écoute électronique. On se posait à Berlin, on passait la nuit, et au petit matin, à 5h, 6h, on redécollait pour refaire la même chose. Parce que les forces du bloc soviétique ont l'habitude de brancher leur radar de conduite de tir pour checker toutes les fréquences radar tôt le matin ou tard le soir. Voilà, c'était la raison pour laquelle nous, on volait ça dans ces heures-là.
D'accord. On pouvait régler sa montre sur l'allumage des radars soviétiques. C'était pratique.
Non, mais c'était quand même assez intéressant. D'accord. Parce que c'est en fait un background qui m'a ensuite servi quand je suis parti sur Mirage 4. Et ensuite aussi, quand il a fallu faire le développement du système de contre-mesure électronique, c'est sûr que on ne pouvait pas me raconter n'importe quoi. Et sinon, après le DOR 2501, donc, j'ai rejoint l'école militaire de l'air pour devenir officier. Et là, j'ai demandé à devenir un navigateur, ça a été accepté. Wow. Encore un pas dans ma vie. Après avoir fait donc l'école navigateur à Toulouse, j'ai intégré le centre d'instruction des forces aériennes stratégiques à Bordeaux sur Nord Atlas. À l'époque déjà, puisque les navigateurs étaient formés sur Nord Atlas, et ensuite sur Mirage 3B et Mirage 4. Et il y avait quelques vautours qui restaient encore, mais c'était la fin des vautours.
Le Mirage 4, l'équipage était composé de combien?
Un pilote et un navigateur. Navigateur bombardier, il s'appelait navigateur bombardier.
Donc le Mirage 4, c'était le bombardier
stratégique. Oui, équipé de l'arme nucléaire.
D'accord.
À l'époque, c'était la N22 avec le Mirage 4A, et ensuite on est passé sur la SMP avec le Mirage 4P.
SMP,
j'ai connu ces ces deux programmes.
Et donc, les Mirage 4 étaient basés à Mont-de-Marsan ?
Il y en avait partout.
Ah, il y en avait partout ?
Oui, partout. Tu avais Mont-de-Marsan, Cazaux, Creil, Luxeuil, Saint-Dizier, Avor. Mmh. Et après, on avait des bases de desserrement comme Istres, Orange, Landivisio.
C'était à grande époque.
Ah, c'était quand tu avais 80 Mirage 4 déployés comme ça lors d'un exercice poker, avec 11 635, ça calme.
Ouais, ça commence à parler.
Ça commence à parler, ouais. D'accord. Sacrée machine.
Les missions duraient longtemps sur Mirage 4
Jusqu'à 10 heures. Ça dépendait. En règle générale, 3 heures, 3-4 heures, les missions. Mais on pouvait aller jusqu'à 10 heures. J'ai fait une mission avec un paquet de ravitaillement, et je ne dirai pas où. C'était une mission de Rocco.
Le navigateur était assis donc à l'arrière, mais il n'avait pas de hublot.
Il y avait
juste
un petit... Non, il y avait deux fenêtres sur les côtés, de 15 à 20 cm. Oui. Mais en règle générale, elles étaient fermées. Quoi.
Oui,
on travaillait avec un radar qui était gigantesque.
Un scope.
Ouais. Un scope, un radar qui était gigantesque, avec un dispositif optique asservi, qui nous permettait aussi, pour le largage, de pouvoir tirer à vue aussi, en manuel. Donc après le Mirage 4, je suis parti à Mont-de-Marsan, au CEM, et j'ai intégré
le
les équipes
d'expérience,
militaire. Et j'ai intégré les équipes d'expérimentation et d'essai pour le Mirage de Mylène, avec l'arrivée du premier standard, avec le suivi de terrain automatique, les premiers tirs en automatique d'armement classique, parce que le Mirage de Mylène ne faisait pas que du nucléaire, donc il avait aussi une mission tactique, air-sol. Et ensuite, en 90, je suis rentré à l'école des pilotes d'essai de l'EPNER, jusqu'en 91. Et après 91, je suis devenu membre de l'équipe de marque Mirage de Mylène D à Istres, puis Rafale, jusqu'en 95. En 95, donc, j'ai rejoint les essais en vol de la DGA, avec une casquette de certificateur, donc autorité française, jusqu'en 2001. Et là, effectivement, j'ai participé chez Dassault à la poursuite des essais sur Mirage 2000D, du Rafale, avec les premiers essais du Rafale B01. Et en 2001, Airbus est venu me chercher pour rentrer chez eux.
Voilà. Alors, ah oui, donc ça veut dire que tu as volé sur tous ces avions-là ?
Beaucoup plus que ça, mais oui, tout cela, oui, c'est sûr.
Donc, par exemple, tu as combien d'heures sur le Rafale ?
Le Rafale, j'ai pas beaucoup, j'ai que 60 heures.
Off. C'est plus que nous deux réunis.
Non, mais, on regarde quand même ou pas ?
Non, mais Mirage 4.
Petit joueur, hein, Eric.
Ouais, 60 heures. Mirage 4, plus de 1200. Ouais. Mirage 2000, plus de 2000. Et sur la 400M, plus de 2500.
Et combien d'heures de supersonique au total ? Tu les notes, ça, les heures supersoniques ? T'as une idée ?
Oui, je crois que j'avais fait 180 missions supersoniques.
D'accord.
Et plus de 300 ravitaillements.
Alors, supersonique en Mirage 4, ça voulait dire que vous larguiez les bidons ?
Non, pas du
non,
tout.
Non, pas si supersonique avec les bidons.
Bien sûr, bien sûr. D'accord. Bien sûr. Alors, il y avait deux configurations. Tu avais des bidons supersoniques et des bidons qui étaient limités à Mach 0,95.
D'accord.
Mais quand on faisait les missions de pénétration au-dessus de la mer, là, on était en supersonique. Là, on avait des bidons supersoniques. Pourquoi ? Parce qu'avant, on prenait l'alerte en vol jusqu'en 1983, 82-83.
Aussi
donc, les avions étaient armés.
En vol ?
Eh oui.
Jusqu'en 83 ?
82-83. Quand le militaire est arrivé, effectivement, il y a eu un changement là.
D'accord.
Et on a dit, bon, moi, il faut arrêter.
Vous avez pris l'alerte en vol, mais sans les armes. C'était plus
voilà, exactement. Non, mais on prend l'alerte au sol, quoi. Voilà.
D'accord.
Ça, c'était mon expérience au Mirage 4.
Et alors, reviens un petit peu en arrière, parce qu'effectivement, le Airbus est venu te chercher donc,
en 2001.
Tu étais à l'époque au CEM.
Non, j'étais au CEV là, actuellement.
Tu étais au CEV, déjà EV, donc aujourd'hui. Tu avais ton diplôme de l'EPNER.
Oui.
Et qu'est-ce qui a fait qu'ils sont venus te chercher précisément ? C'est ton expérience préalable sur d'ingénieur navigant d'essai,
bien sûr.
Ta connaissance des avions de transport aussi à travers le Nord Atlas.
Totalement, parce que moi j'avais aucune expérience d'une certification civile d'avion, donc j'avais aucun intérêt à rentrer chez Airbus. Voilà. En revanche, Airbus était déjà engagé depuis 1999 sur le programme ATF-FLA.
ATF-FLA, donc FLA, Future Large Aircraft.
Tout à fait, qui allait devenir la 400M.
D'accord.
Puisque le contrat a été signé en 2003. Mais déjà, Airbus préparait donc cette arrivée-là. Ils avaient recruté donc Ed Stroman et ils ont décidé de me recruter.
D'accord.
Donc pendant 5 années, j'ai participé aux essais en vol de développement et de certif sur leurs avions civils, le 345.
Ça, c'était pour te faire la main ?
Tout à fait, non, pour me faire la main.
Pour
me faire la main.
D'accord.
Puis aussi pour apprendre, parce que quand même, c'est autre chose. Hein.
Mais alors,
jusqu'en 2005. Ouais.
Pardon de te couper, mais on arrive à une question essentielle. Pourquoi on parle de certification civile pour un avion militaire comme la 400M ?
Tout à fait.
Parce qu'on on parle de qualification, on parle de certification, civile, militaire. Enfin, tu peux débrouiller un petit peu les fils.
Oui, certifier un avion, c'est garantir sa sécurité. D'accord ? Et jusqu'en 2000, on va dire 2005, les avions militaires n'étaient pas certifiés avec le niveau de sécurité d'un avion civil.
On considérait que les militaires pouvaient accepter une certaine dose de
risque, d'incertitude, de risque. Ils étaient qualifiés militairement. D'accord. C'est-à-dire que chaque nation était responsable de définir un cahier des charges. Je dis bien chaque nation.
Oui, c'était simple. Ouais.
Voilà. Donc là, tu arrives avec un programme où il y a 7 clients. Et il faut collecter tous les
7 clients partenaires, donc qui participent à la définition de l'avion.
Tout à fait.
Uniquement des gens qui payent pour avoir l'avion.
Non, pas du tout. Oui. Des partenaires qui ont des exigences, à la fois opérationnelles, mais aussi en termes de sécurité. Au départ, il avait été envisagé d'utiliser les CRI, les certifications review item américaines, ce que demandaient par exemple les Turcs.
C'est-à-dire utiliser un canevas qui existe déjà.
Parce qu'ils étaient habitués, ils utilisaient les avions américains, ils étaient habitués à avoir des certifications basées sur ces règlements-là. Sauf qu'Airbus, eux, ils n'étaient pas habitués à ça. Eux, Airbus, c'était une certification civile, d'accord, qui était valable dans toute l'Europe, et une certification avec la FAA valable dans le reste du monde.
Par équivalence, quoi.
Voilà, par équivalence. Les choix Airbus ont été à ce niveau-là en disant on va garantir un niveau de certification de type civil pour la mission de transport, donc passagers et cargo, fret.
Voilà, la mission de base.
Du niveau d'un avion civil.
D'accord. Voilà.
Et les règlements, on les connaît puisqu'on les a déjà, on les utilise tous les jours avec tous nos avions jusqu'à la 380 compris. Et finalement, ça a plu aux nations qui étaient en charge de la certification militaire et la qualification militaire, qui ont dit nous, ça nous intéresse, c'est d'avoir déjà une base commune et de ne pas avoir 7 nations avec 3 tonnes de documentation différentes chacun. Donc, on a dit, et effectivement, et en plus, ça a permis de définir un cadre et un calendrier. En disant, bon, Airbus a l'habitude de certifier ses avions entre 18 et 24 mois. Donc ça nous plaît beaucoup. Et effectivement, c'est ce qu'Airbus a proposé au début, une certif civile entre 18 et 24 mois. Il s'avérera que ça a été un petit peu plus long.
Et c'est cette exigence de certification qui a fait dériver le calendrier ou c'est...
Non, pas du tout, non, pas du tout. C'est l'avion lui-même.
C'est l'avion lui-même.
La certification, les règlements, tu les connais, c'est maîtrisé. D'accord. C'est un avion de commande de vol électrique équivalent au 380, donc la base, elle est connue. Elle est connue et maîtrisée.
Les commandes de vol ont été prises sur le 380.
Oui, tout à fait. C'est un dérivé du 380, c'est clair.
D'accord.
Déjà, l'interface aussi. Déjà, l'interface cockpit, c'est un copier-coller du 380. La base, hein, j'entends bien. Dans laquelle il a fallu intégrer toutes les fonctions militaires, parce que le cockpit est capable JVN, ce que n'est pas capable un 380. C'est un exemple. Il a fallu intégrer les contre-mesures, des choses comme ça. Intégrer un blindage. Donc, c'est bon, le cockpit, ça ressemble à un 380.
Un 380 cargo, ça aurait eu de la gueule.
Hein. Ah oui, je pense que ce serait pas mal.
Un fuselage vide avec une rampe à l'arrière, il n'est pas trop tard.
C'est faisable, il n'est pas trop tard. Hein.
Ouais. Je crois qu'ils
et ce serait un bon programme pour Airbus. Hein.
Ils ont démonté la ligne d'assemblage finale.
Hein. Ah, dommage.
Ouais. Bon, après, tu peux faire du rétrofit, hein, à partir des avions qui ne sont pas utilisés, comme ceux d'Air France, par exemple.
Donc, Eric, quand tu as rejoint Airbus, le premier vol n'était pas encore programmé.
Alors, il était programmé en 2008 et il était retardé d'une année à peu près.
D'accord. Voilà. Pour quelle raison ?
Moteur, essentiellement.
Là,
c'est
le moteur.
Le gros sujet de l'avion, effectivement. Le moteur de l'avion, il a été développé avec 4 bancs d'essai, en Espagne, à Morone, un autre à Istres et à Villaroche, en France, et un autre à Berlin, chez MTU. Et un autre banc supplémentaire, mais spécialisé pour la propeller gearbox, chez Avio, en Italie. Quoi.
Pour la boîte de transmission.
Oui, tout à fait. Okay. C'est là, quand même, 11 000 chevaux, en plus avec des hélices contre-rotatives. L'affaire n'a pas été simple
pour les équipes. Qui tournaient dans des sens différents, suivant la position du moteur.
Et oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Et ça, c'était pas simple. Hein. Oui. Mais intéressant d'un point de vue comportement en vol en cas de panne de moteur. Quoi. Parce que là, du coup, tu n'as pas d'effet couple à prendre en compte. Donc plus facile à piloter, premièrement, et deuxièmement, plus facile à certifier, quoi, ça c'est clair.
Ah, avec le recul, et toi qui es maintenant un homme libre et retraité, est-ce que c'était un bon choix de partir pour ce moteur entièrement nouveau, sur un avion entièrement nouveau ?
Les options qu'il y avait à l'époque, c'était le Pratt & Whitney, ou alors réutiliser, si tu veux, des moteurs de CFM, mais Stegma, donc Safran après, n'était pas très chaud.
D'accord.
De transformer ça pour une hélice et tout. Donc, la solution qu'il y avait, c'était Pratt & Whitney. Et finalement, les nations ont dit, bon, attendez, on va quand même pas acheter un Canadien, un Américain, c'est pas possible. D'accord. Donc finalement, ils ont décidé de développer quelque chose en commun en Europe. C'était pas un mauvais choix, ça donner du travail à l'Europe. Mais ça a été beaucoup plus compliqué qu'envisagé, que prévu. Le développement de ce moteur a commencé beaucoup trop tard. Puisque je rappelle quand même que les essais sur le banc d'essai en vol à Cambridge, sur le 630 qui avait été modifié, se sont terminés en octobre-novembre 2009. Et le premier vol était en décembre. Donc le bon de vol est arrivé...
La veille au soir.
Voilà. Non, pas la veille au soir, mais pas loin. Ouais. Quoi. Donc c'était tendu. Moi, j'ai jamais connu ça, cher Bus. Là, zéro marge. Ce qui voulait dire que le moteur arrivé sur avion en essai en vol sur la 400M, les problèmes étaient connus. Les principaux problèmes avaient bien été identifiés, très bien identifiés. Mais malheureusement, on n'avait pas le temps de les modifier. Donc on a eu un bond de vol avec des restrictions énormes.
Et alors, une question de Béotien. Pourquoi des moteurs à hélice alors qu'on aurait pu prendre des réacteurs
Ça condamnait les opérations sur piste sommaire. Premièrement, et deuxièmement, en termes de consommation, un moteur à hélice consomme beaucoup moins qu'un réacteur classique.
Parce que les pistes sommaires, donc le réacteur a un peu tendance à passer l'aspirateur sur la piste.
Un peu, ça aspire, c'est clair. Ouais. Tu le vois, tu as des cheminées qui montent du sol vers le réacteur. Ouais. Ce qui n'est pas le cas avec un moteur à hélice. Pour connaître un petit peu le C-17, les opérations de maintenance derrière une opération sur piste, on va dire, semi-préparée, parce que eux, c'est pas sommaire, c'est semi-préparé, c'est des heures et des heures, voire des jours de maintenance derrière, d'inspection, de réparation, donc...
Ouais. Cela dit, la 400 aussi, il faut pas bien passer derrière. Tu fais un décollage sur piste sommaire.
Il y a des impacts, mais les dommages ont été évalués. On pourra en parler tout à l'heure si tu veux. Mm-hmm. Mais ça a été évalué quand on a fait les premiers essais en 2010 à Francazal. On a mis des planches de bois sur la piste de façon à tester le comportement de la structure au choc sur passage de marche en fait. Et ensuite, on a fait des essais sur la craie qu'on avait répandue sur la piste à Francazal. La craie, ça simule le gravier en termes de projection. Mmh. Et donc, après un passage de l'avion, on faisait une inspection à grande vitesse. Hein. On faisait ça donc à 60, 60 nœuds, 80 nœuds. Et après, on inspectait l'avion, on regardait les impacts. Et on vérifiait que le train n'était pas touché. Enfin, les organes vitaux n'étaient pas touchés. Circuit hydraulique, des choses comme ça.
La craie, l'avantage, c'est que ça ressemble, ça représente le gravier, mais ça éclate à l'impact.
Ça s'écrase après. Oui. Après l'impact, ça s'écrase. Ça ne perce pas.
Alors, je reviens un petit peu en arrière aussi. Tu parlais d'hélice contrarotative tout à l'heure, ce qui n'est pas quand même le cas de la 400, mais on a bien compris l'idée. En parlant d'hélice contrarotative, il y avait à l'époque l'Antonov 70 ukrainien, ukraino-soviéto-russe. Ouais. Pareil, avec le recul, qu'est-ce que tu peux en dire de cet avion, puisqu'il avait été considéré, on avait considéré à l'époque.
Oui, c'était une option.
Une option, oui. D'un point de vue industriel, où il y avait ce problème de certification aussi.
Voilà, tout à fait. L'avion n'était pas certifié aux normes d'Airbus, quoi. Qu'Airbus aurait voulu ou que les nations auraient voulu. Donc ça, c'est quelque chose qui a un peu
fortement refroidi
les nations, surtout européennes. Ouais. L'usine aurait été bombardée, par exemple.
Oui, parce que l'avion aurait été construit en Ukraine, mais pour les pièces détachées et pour tout le reste...
Non, ça aurait été un très, très mauvais choix. Après, il y avait aussi le 130J.
Oui.
Mais bon, c'est un avion quand même de pas la même génération et pas avec les mêmes performances. Quand tu vois la 400M par rapport à la 630, je suis désolé. On n'est pas dans le même cours. Mm-hmm. Ça, c'est clair.
Le TP400, donc c'est-à-dire le moteur de la 400M, 11 000 chevaux, c'est ça ?
Oui, c'est ça.
Est-ce qu'il y a d'autres moteurs plus puissants ? C'est une question d'Eliot Beer.
Non. À l'époque, il n'y avait que le moteur de l'Antonov 70 qui faisait 14 000 chevaux.
14 000 chevaux.
Ouais. C'était le seul turboprop.
Des Kuznetsov aussi, des Tupolev 95, ils ne doivent pas être loin.
Tout à fait. Mais c'est le même moteur. Hein. Ouais. C'est le même moteur. 14 000 chevaux aussi.
Ouais. Ouais, c'est des bêtes.
C'est un dérivé en fait. Hein.
D'accord. Ouais. Et alors ce qui est extraordinaire, c'est, tu l'as évoqué tout à l'heure en passant, mais sans ces essais en vol sur un malheureux C-130.
Ah oui, ça c'était quand même extraordinaire.
À qui on a greffé donc, ces 14 000 chevaux sur une aile.
11 000
chevaux, pardon, sur une aile, et qu'on a essayé de faire décoller droit pendant. Il y a eu quand même quelques.
Oui, c'était.
Ils se sont fait des frayeurs au simulateur pour essayer de faire décoller cet avion avec 11 000 chevaux d'un côté et puis 5 000.
Non, c'était pas simple. C'était pas simple. Et merci à l'équipe de Marshall à Cambridge.
Marshall
et aussi à Ed Stroman. Une petite pensée à Ed qui est décédé en 2016. Mais franchement, c'était très compliqué. Pourquoi ? Puisque le TP400 était en position 2. On réduisait le moteur 1 à l'alignement au ralenti. Le 2, qui était le DP401, était poussé progressivement jusqu'à 50%, et les moteurs 3 et 4 à toga.
À fond, donc.
Donc, je ne sais pas si vous imaginez le
déséquilibre. Voilà. Hein.
Mais le déséquilibre, on
ouais. À ce point-là.
Ah oui, oui. On arrivait à le contrer. Le problème, c'est la panne moteur. La panne moteur, si tu veux, d'un des trois moteurs. Il fallait le gérer, quoi.
Oui. Voilà.
Et après, il fallait pousser progressivement à la fois le moteur 1 et le moteur 2 de la 400. Et les premiers essais en simulation ont donné 3, 4, 5 sorties de piste. Voilà, jusqu'à ce qu'on arrive à trouver la procédure qui va bien. Merci à Edstroman d'avoir été ambitieux. Parce que les premiers pilotes donc, de Marshall étaient réticents à réduire, à s'aligner, à commencer à rouler avec un moteur réduit.
Et merci à Ed aussi d'avoir été anglais, parce que je crois que c'est toi qui me racontais ça, qu'il ouais. n'aurait pas été anglais, il n'aurait pas été écouté par les équipes de Marshall
tout
comme
à
il
fait.
A été.
Tout à fait.
C'est lui qui a c'était tapé assez... les points sur la table ouais. et qui a dit on fait comme ça parce que je suis... Le...
Exactement, exactement. Ouais. Et il faut savoir quand même qu'avant de rejoindre Airbus, il était patron de la certif à la GIA.
D'accord.
Anglaise, donc si tu veux, c'est pas n'importe quoi.
Oui.
Airbus, ça savait qui recrutait, quoi. D'accord. Vous savez comment l'appeler ? On l'appelait Corner Point.
Corner Point, d'accord. Parce qu'il allait dans les coins du domaine de vol, c'est ça ?
Exactement, exactement. Et c'était bien notre chance à nous, parce qu'effectivement, il faut y aller quand même. Aller chercher les points de domaine de vol quand on ouvre un domaine, bon.
Et quand vous y allez, il faut avoir confiance aussi.
Tout à fait, exactement. Exactement.
Tu as eu des frayeurs, toi, pendant les essais en vol ?
Alors, dans les essais en vol, pas trop. Enfin, il y en a eu quand même, mais...
T'as plus de cheveux, hein. Ceux qui restent, ils sont blancs.
Oui, hein. c'était avant déjà, ouais. ça. Mais surtout, pendant les démonstrations en vol, là, c'est clair qu'il y avait des fois où on souffrait. Pourquoi ? Parce qu'il était corner point. C'est-à-dire que c'était comme ça, les commandes de vol électriques, c'était plein manche,
embuté,
à la fois en tirant, à la fois en poussant, et sur les côtés, pareil. Mais d'un autre côté, un vol de présentation, c'est pour démontrer, présenter les performances de l'avion, au maximum de ce que l'avion sait faire. C'est pas un vol de tourisme. Mais il y a des fois quand même, surtout au début, les moteurs souffraient. Hein. On voyait les pressions d'huile à zéro, c'était quand même c'était des choses, avec toutes les alarmes à bord. Quand on faisait la...
Mais c'est un bel avion.
Quand on faisait la cloche, mais... Bon, après, on a corrigé tout ça. Mais quand même, aujourd'hui, c'est un avion extraordinaire.
La pression d'huile à zéro, c'est quand vous faites une cloche, c'est ça ?
Oui, tout à fait.
À zéro G, donc vous arrivez en sommet et... Ouais.
Tu le vois sur les démos en vol au Bourget ou au Berlin ou ailleurs, c'est extraordinaire. C'est... Et puis après, le passage à 5000 degrés, faut faire gaffe quand même.
On a eu l'équipe.
Surtout à très basse altitude.
On a eu l'équipe du Tactical Display sur le plateau au Bourget. Ouais.
Ouais. Et quand on a fait la première démonstration en 2010 à Berlin, l'avion, hein, il n'avait même pas un an de mise au point. Hein. Vous vous rappelez ça En 2013, on l'a pas fait au. Pardon, en 2011, on l'a pas fait la présentation. Je sais pas si vous vous rappelez au Bourget, parce qu'on avait cassé deux moteurs. Du coup,
Ça fait le buzz.
Ça avait fait le buzz là.
Cassé deux moteurs. Tu peux nous rappeler un peu, parce que moi j'ai pas le souvenir.
Pendant toute la campagne d'essai, je crois qu'on a cassé. Je crois que c'est 16 propellers gearbox et une dizaine de compresseurs, quoi. Quand même, sur toute une campagne. Peut-être même un peu plus. D'accord ? Sur une campagne 380, au total, c'était quoi ? 10, 12 moteurs. Pourquoi ? Parce qu'on les pousse quand même aux limites des limites. Quand tu fais des vols en conditions givrantes, on va dans les QNM. C'est-à-dire que là, personne... tout le monde s'en va d'habitude.
Ouais.
Nous, on y va et on prend du givre. Et c'est tout qui prend. Les moteurs, la carlingue, le nez de l'avion, les bords d'attaque. Je veux dire, on fait souffrir les machines. Quoi. On rentre souvent avec des dégâts.
Les hélices aussi.
Mais par contre, c'est ça, la certification d'un avion civil, c'est ça. Et c'est pas ça sur un avion militaire. La certification militaire, non, on fait pas ça.
Oui.
J'ai fait le développement du Mirage 2000 ou du Rafale. Ben c'était la vitesse limite minimum, c'était 100 nœuds. C'était 100 nœuds. On ne descendait pas en dessous. Et c'était 100 nœuds, point. Avec bidon, c'est 120, point.
Et comment on fait pour... puisqu'un avion à commande de vol électrique, donc normalement, est censé être protégé, t'empêcher de sortir du domaine de vol. Donc ça veut dire quoi ? Que vous enlevez quelques lignes de code ?
Non, pas du tout. On n'enlève pas de lignes de code. On passe en loi directe.
D'accord.
C'est-à-dire que là,
donc le pilote prend la main, sur la...
Le pilote, disons qu'on enlève tous les filtres. Quoi.
D'accord.
À part les filtres structuraux. Et là, on passe en loi directe. C'est-à-dire que là, c'est vraiment du bestial. Quoi.
On va évoquer le premier vol aussi, qui a été un morceau de bravoure. Encore une fois, là, ça s'est joué en boucle très courte. Enfin, quelques heures avant le premier vol, vous étiez toujours un peu dans l'expectative, dans l'inconnu sur certains points. Enfin, il y avait 2000 invités qui vous attendaient. Il y avait le roi d'Espagne. Il y avait des présidents, des premiers ministres, des ministres.
Alors, c'était pas deux jours avant, quand même. Mais 10 jours avant, effectivement, on avait des doutes.
Mais c'est bien de douter. C'est...
Oui. Non, tout à fait,
Il faut douter, oui.
Pourquoi on avait douté
Qu'est-ce qui vous faisait douter, oui.
Non, on avait un programme de premier vol ambitieux, très ambitieux. Et pour pouvoir faire un programme de vol ambitieux, il faut des essais sols qui garantissent tout ça. Notamment, par exemple, l'ouverture de rampe. Ça, c'est des choses que tu ne peux pas décider comme ça, un vol, on va l'ouvrir, si tu ne l'as pas testé. À la fin, on a dit, ça, on va gagner 2-3 jours, on ne le fera pas.
D'accord, voilà. On le fera plus tard.
Ouais. On fera plus tard. Donc, on a identifié les points du premier vol, qui n'étaient pas, on va dire, indispensables à un premier vol, qui étaient plus de la com qu'autre chose, et on a dit, ça, on le fera plus tard. Voilà. On est passé de on va dire 5 semaines d'essai sol à 4 semaines. Mais il y a eu aussi les aspects installation du puits d'évacuation.
Ah, c'est une belle histoire.
Où là, effectivement, c'était un puits où on découpait la structure de l'avion.
Avant ça, peut-être que tu peux nous raconter cette fameuse entrevue avec...
Avec Tom et Fernando.
Oui, il faut que tu nous racontes ça.
C'est une entrevue. Disons que les équipes de Matra, qui étaient en charge de la partie pyrotechnique sur l'avion, nous entendent ce dernier moment, alors qu'on leur avait demandé de faire les travaux en 4 jours, nous disent, désolé, nous, il nous faudra 3 jours... jour et nuit, enfin 8 jours au lieu de 4.
Pardon de te couper, 2 mots pour expliquer. Donc, pour ce premier vol, vous aviez prévu donc, de découper une trappe d'évacuation dans la structure
tout
de l'avion.
Fait, tout à fait.
Pour que vous puissiez sauter en parachute.
Évacuer dans un puits qui a été fabriqué.
Mais il fallait
spécialement
le fabriquer
pour l'avion.
Et il fallait le mettre en place.
Non, il était déjà fabriqué.
Il était fabriqué.
Mais il fallait installer toute la pyrotechnie.
Une chaîne pyrotechnique.
Et pour faire ça, il fallait 0 personnel autour de l'avion. Donc imagine en train de faire des essais en vol, des essais au sol, tu as, je sais pas moi, 2-3 équipes qui travaillent en même temps, de jour comme de nuit.
Donc ça vous aurait pris plusieurs jours, 100 personnes
sur l'avion.
Ça
vous aurait pris grosso modo 8 jours au lieu de 4. Quoi.
Juste pour installer cette chaîne
pyrotechnique.
Tout à fait. Et alors
à cette époque-là, le patron d'Airbus, Tom Mander, s'est descendu à Séville.
Et, Major Tom, non ?
Voilà, Major Tom. Et a réuni donc Ed, mon chef pilote, Fernando Alonso, qui était le directeur des essais en vol à l'époque, et moi-même.
Vous êtes tous les quatre dans une petite pièce,
autour de la table, dans mon bureau. Et la question est posée, est-ce que vous croyez réellement vous avez besoin de ce puits d'évacuation ?
Est-ce que vous avez besoin de sauver votre peau s'il y a un problème, quoi ?
C'est pas tout,
oui. Parce que ça, votre peau va nous coûter cher, là,
Et là, si tu veux, je regarde Ed Stroman, je regarde Fernando, je me dis, les gars, j'espère que vous allez répondre la bonne réponse. Et effectivement, Fernando a dit non, on en a besoin, on le veut.
Et on prend le temps pour le faire.
Exactement. Et Tom a dit, c'était la réponse que j'attendais. Là, j'ai dit bravo, chef.
Oui, mais il a quand même posé la question.
C'est normal.
Et on dit que les questions engagent autant que les réponses.
Oui, mais il a posé la question aux 3 membres qui étaient concernés. Voilà.
Oui, mais enfin, je ne veux pas être remuer le couteau dans la plaie, mais s'il a posé la question, c'est quand même... Vous auriez dit non, on peut s'en passer.
Ouais.
Bref.
C'est souvent comme ça.
D'accord.
C'est une pression à gérer, on l'a géré.
Donc vous avez eu ce fameux puits.
Mais quand même, après, je suis quand même... retourner voir mes équipes et j'ai dit les gars, il faut assurer le 11 décembre, d'accord,
pour le premier
c'est la date
vol,
du premier vol. Donc là maintenant, j'avais tous mes mécaniciens ingénieurs avec moi, j'ai dit l'équipage premier vol et puis les équipes d'essai. J'ai dit maintenant, qu'est-ce qu'on peut enlever pour gagner 4 jours? Ok, ça et ça. Parce qu'au début, ils m'ont dit, Eric, désolé, tu peux oublier la date du 11 décembre. Sinon, les gars, ça
appelle
va pas
le
comme
roi,
ça.
Appelle le roi, dis-lui que c'est annulé. Ouais.
Non. J'ai dit, les gars, maintenant, c'est le 11 décembre. Donc, quel programme on peut donner à l'avion pour maintenir cette date? Et grâce notamment à Didier Ronceret, qui est un de mes ingénieurs navigants, qui a été le leader sur ce vol-là, et qui a trouvé, effectivement, qui a bien identifié les points d'essai qu'on devait garder absolument et qui a fait qu'on avait mais quand même un programme d'essai en vol démonstratif tout de même, on n'allait pas faire comme on faisait avant sur Concorde ou sur les autres où tu décollais,
piste.
Tour de piste, train sorti, tu te posais quand même avec 3000 ou 4000 invités voire plus parce qu'à Toulouse tout le monde était en visioconférence pour regarder ça ou même à la télé puisque le vol était à
Séville, le premier vol,
tout à fait, il était à Séville.
Alors, je reviens donc sur ce puits d'évacuation, c'est plutôt Aérodoc qui revient dessus. Donc, le puits d'évacuation, c'est une trappe par laquelle on peut sauter en parachute.
Tout à fait.
Donc, ça, c'est sa question.
Tout à fait, exactement.
D'accord. Donc vous aviez tous, vous étiez combien pour ce premier vol?
On était 6.
6 et vous aviez
trois
chacun...
copies, trois en sous-tout.
Mais donc, ça, on peut l'utiliser qu'à une certaine altitude.
Ben oui, tout à fait, bien sûr. C'est mieux que rien.
Donc et elle était située où?
C'est sûr que si c'est à 300 pieds, c'est foutu. Hein,
elle était située où cette trappe?
Juste en dessous de l'escalier qui mène au cockpit.
D'accord. Et elle existe toujours?
Non, bien sûr que non.
Non,
sûr que
non. Elle a été remplacée par les toilettes.
Elle était installée uniquement sur l'avion numéro 1.
D'accord. Voilà. Il y avait combien de prototypes dans les essais?
5 prototypes avaient été mis à notre disposition. L'avion 1, le 2, le 3, le 4 et le 6. Puisque le 5, les pièces détachées ont été utilisées pour les autres avions. Et les avions ont été livrés 4 en 2010, enfin 3 en 2010, 1 en 2009 et le dernier en 2011. Et chaque avion avait un programme bien séparé en termes d'essais en vol et certains avions étaient dupliqués. Par exemple, l'avion 1 et l'avion 2 avaient quasiment les mêmes mesures d'essais pour pouvoir intervertir l'avion 1 ou l'avion 2 pour certains essais en cas de panne ou en cas d'indisponibilité d'un avion.
Combien d'installations d'essais dans l'avion, en tonnes ou
en mètres cubes? En tonnes, ça représentait 17 tonnes sur l'avion
17 tonnes
sur l'avion 1,
d'équipement d'essai.
15 tonnes sur l'avion 2, aux alentours de 10 tonnes sur l'avion 3, et très très peu sur l'avion 6. L'avion 6, il y avait juste une station de contrôle en soute.
Pourquoi ce chiffre? Est-ce qu'il y a des ballasts?
Oui, il y avait des water ballasts. Il y avait deux water ballasts pour transférer 2 tonnes d'eau de l'arrière vers l'avant ou de l'avant vers l'arrière.
Pour faire des essais de centrage.
Tout à fait. Pas des essais centrage, c'est des essais pile au bon centrage. D'accord, ça permettait d'ajuster par rapport au centrage actuel, d'être pile sur la courbe où il va falloir aller pour tester le coin du domaine de vol.
Il aurait fallu prendre Carlos et le faire bouger dans la soute. C'était moins cher.
Ça aurait pas suffi. Hein.
Bon, c'est un avion qui a encore une longue carrière devant lui.
Ah oui,
carrière
sûr.
Commerciale, parce que carrière non, militaire, ça...
Non, mais militaire, ça, il a 40 ans devant lui, là. Là, c'est clair, minimum 40 ans. C'est que l'avion est doté des systèmes les plus modernes. Donc c'est clair qu'aujourd'hui...
On va rappeler que la France, elle en a acheté 35 fermes pour l'instant. La cible, c'est de 50.
C'est 50.
Mais il y en a 35 qui sont pour l'instant
commandées
fermes. Ouais. Alors quand on en parle avec Airbus, ils insistent, non, c'est 50 commandées.
Non, mais c'est 50, ils ont raison.
Oui.
Le partage avait été établi en fonction du nombre de commandes. Donc les Allemands ont réduit leur cible, les Anglais aussi.
Aujourd'hui, on en a combien? 23, 24 livrés
22, 23.
22, 23, 24, d'accord.
Et mon rêve, c'est de voir tous les pays de l'OTAN équipés de cette machine. Et en espérant que les pays du Golfe vont en acheter.
Et les États-Unis aussi, ça serait beau. Hein. On peut rêver. Hein.
Les États-Unis, j'ai participé à l'évaluation en 2018. Donc là, on était partis 3 semaines. Et on a fait donc le Texas, El Paso, la Floride, l'Arkansas, l'Arizona. Et là, avec des opérations grandeur nature. Chargement d'un Skyrider sur une piste à El Paso. Déchargement posé.
C'est un Striker, non, peut-être.
Striker. Oui, qu'est-ce que j'ai dit?
Skyrider. Striker.
C'est presque.
Donc, c'est un blindé à roues d'une trentaine.
Donc, chargé à El Paso, posé en Arizona sur une piste en latérite, d'accord, terre latérite, un déchargement du bidule,
à roulette,
rechargement et redécollage, quoi. Et il faisait 35 degrés.
Alors quand tu,
il y a aucun avion qui faisait faire ça aujourd'hui, aucun. C'est 17, tu oublies. C'est 130. La soute est trop petite.
Oui.
Aucun.
Voilà. Mais donc, quand vous partez pour faire des démonstrations comme ça...
Alors là, c'était une évaluation. Attention, pas une démonstration.
Et alors, c'est quoi la différence?
La différence, c'est qu'il y a un objectif derrière. On a une fiche, on va dire, pas programme, mais on a un objectif. Donc, ils disent, voilà,
bien détaillé, ouais.
Chargement de ce véhicule, décollage d'El Paso avec tant d'autonomie, posé en Arizona et revenir tant de nautiques de range. Donc ça, c'était une des parties de la mission. Parce qu'il y avait d'autres missions avec la... Ça, c'était avec les forces spéciales. Il y a eu une autre mission avec l'armée de l'air, une autre mission avec la Navy et une autre mission avec l'armée de terre. Donc sur 3 semaines. Et avec un avion, avec un seul avion. Zéro panne.
Dieu.
Incroyable.
Et alors, qu'est-ce que ça a donné?
On connaît les Américains.
Oui.
Eux, ils aiment bien avoir dans leur surétagère des réponses à des fiches. Voilà. D'accord. Donc, ils savent que l'avion répond à tous les points. Je dis bien à tous les points. Voilà. Donc, si demain, ils veulent satisfaire tous ces points parce que le politique aura choisi, la 4CM correspond à leur mission.
Ouais, ils trouveront le moyen de compliquer les choses et de changer la motorisation pour mettre moteur américain.
C'est pas grave, quand on nous fait du travail.
Oui, bien sûr.
Et qu'on gagne de l'argent.
Alors, tu nous as apporté des images qu'on est en train de voir. Ah, et oui, notamment, on voit le président Hollande. Là. Un ancien chef d'état-major de l'armée de l'air chantait les louanges de la 400M en soulignant sa capacité à vider rapidement une base en Afrique.
Tout à fait. C'est ce qu'on a fait. On a livré l'avion numéro 7 en août 2013. On a livré l'avion numéro 8 en novembre. Et en décembre, on participait à la première OPEX avec l'avion numéro 8 sur Bamako et Gao. Avec 17 tonnes de fret, 40 passagers, qui étaient des journalistes et des autorités, essentiellement.
Dont un ministre.
Plusieurs ministres.
Plusieurs ministres.
Plusieurs ministres, d'accord. Et députés. D'accord. Et ensuite, de Bamako à Gao, le 31 décembre, et retour le 1er. Voilà.
Je crois que le Mali était intéressé, il voulait en acheter. Hein.
Bah, il en voulait. Hein.
Ah bon. Pour faire avion présidentiel, surtout.
J'en veux. Hein. Effectivement, moi, il était à bord du vol Gao-Bamako.
Oui. Ouais. Et donc le Drian, le ministre, avait dit ben, « je crois que ça va pas être
possible ». C'est un petit peu
cher. C'est un peu cher, ça veut dire que combien il coûte
catalogue, c'était 135 millions.
D'accord.
D'accord. Et à l'époque, les nations qui avaient lancé le programme avaient dû le payer aux alentours de 110-115 millions. Quoi. Voilà. Mais c'est normal, elle a lancé le programme et en plus elle a injecté de l'argent dans le développement.
À 135 millions, tu as combien de moteurs?
Pardon ?
Tu as des moteurs de rechange ?
Ah non, il faut rajouter tout ça.
Après, il y a les frais de photocopie.
En termes de maintenance, il y a aussi des échos comme quoi ce n'est pas évident de maintenir la 400M. Qu'en est-il réellement ?
Ben, la maintenance, elle est liée, je dirais, au contrat qu'on parle avec la société qui fournit le rechange. Donc, si tu as un contrat qui stipule que tu dois avoir au moins 50% de disponibilité, tu auras 50%.
D'accord.
Si tu stipules 80%, tu auras 80%. Mmh. Le problème, c'est que les forces, elles ont stipulé 100% de disponibilité. Pas toutes les nations. La Malaisie, par exemple, a stipulé beaucoup plus. Elle a un taux de dispo beaucoup plus important.
Qui correspond à ce qui a été signé.
Par exemple, les Malaisiens, ils font la maintenance la nuit des avions. Les nations européennes, la nuit... Ni le week-end d'ailleurs.
La maintenance, elle est sous-traitée à des sociétés indépendantes ?
Alors ça dépend. Les Malaisiens, ils utilisent pas mal d'aides, on va dire, de spécialistes qu'Airbus a envoyés. Voilà. Mais c'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'est-ce que tu donnes, qu'est-ce que tu demandes en termes de pourcentage de disponibilité ?
La 400 a quand même un certain champ libre devant lui. Là. Il n'a pas d'équivalent en matière de transport.
Je rappelle que la 400 fait pas le C-17, hein, il fait une autre mission. Mieux que le C-130, beaucoup mieux qu'un Transal, ça c'est clair, beaucoup plus. Mais il ne fait pas la mission du C-17, c'est pas la même machine. Là.
Mais de toute façon, il n'y a plus de C-17. Donc exactement. Les gens qui veulent du transport lourd, ils n'ont plus trop le choix là, aujourd'hui.
Après, ils peuvent acheter de l'avion russe, comme font les Algériens, par exemple.
Ou du Chinois.
Voilà. Du Chinois, je ne sais pas. Je ne sais pas qui achète du Chinois. Peut-être les Indiens, non ? Donc, je pense pas.
Ah, ils pourraient, hein, les Chinois, ils commencent à vendre un petit peu partout et dans un peu de tout. Hein. Non, ils ont le Y-20 qui...
Non, mais déjà qu'on vend de notre A400M à toutes les nations de l'OTAN, en termes d'interopérabilité, ce serait très très bien.
L'avion a une bonne bouille. La conception d'un tel avion prend-elle en compte l'aspect esthétique ?
Non, jamais.
Jamais ?
Jamais. Mais il est de, on va dire, de coutume ou habitude...
De bon aloi.
De bon aloi d'avoir des avions français qui sont beaux. Ouais. On le voit quand même avec le Rafale. J'adore l'Eurofighter, je vais pas dire. Mais quand même, en termes de gueule, le Rafale est quand même beaucoup, beaucoup plus beau. Après, on ne joue pas un avion sur sa beauté. D'accord ? On joue un avion sur ses performances. Voilà. Et ses qualités de vol, bien évidemment. On pourra en parler d'ailleurs après, si vous voulez.
Oui, très bien. Moi, je voudrais faire avoir une pensée pour notre camarade Jérôme Bonnard. Eric, tu vas nous parler de cette fameuse séquence pour Mission Impossible à laquelle tu as assisté et participé même.
Bien sûr,
parce que tu as doublé Tom Cruise, c'est ça ?
Non.
Ah bon.
On ne double pas Tom Cruise.
Non, c'est vrai.
C'était à Wittering sur une base de la Royal Air Force. En 2014, on s'est déployé avec l'avion pendant 2 semaines. La première semaine pour préparer la soute de l'avion, parce qu'on a quand même découpé de l'atoll. Donc on lui a enlevé 2 hublots pour y intégrer deux rampes sur laquelle allait se déplacer une caméra en 3 dimensions de à peu près 1,40 m de haut. d'accord, et qui se déplaçait sur cette rampe-là.
À l'extérieur de l'avion.
À l'extérieur de l'avion, derrière les moteurs. Ouais. Et dans le cargo, tu avais une structure de presque 3 tonnes de ferraille attachée au sol pour maintenir cette rampe avec cette caméra.
Cette potence.
Première chose. Et la deuxième chose, c'était une potence derrière à la porte parachutiste qui était en charge de tenir Tom Cruise et surtout de pouvoir le récupérer en cas d'incident. Incident, impact de gravier, voilà. Des choses qui auraient pu arriver. Quoi. Parce que Tom Cruise était bien sur la porte para, c'était pas une doublure, c'était bien lui. Et qui a fait toutes ces cascades.
Et ce n'était pas des images de synthèse non
c'était
plus.
Ce n'était pas des images de synthèse. Après, effectivement, il était attaché avec un harnais, avec 12 ou 13 points d'attache. Quand je me souviens, lors des discussions avec lui, sur la configuration quand on ferait le décollage, j'avais dit, bon, il faudra mettre un masque, ok, pour protéger les yeux, et puis jamais enlever vos pieds du jump platform, quoi. Ah non, Eric, il n'y a pas question. Jamais mis de masque, je ne mettrai pas de masque, il faut que les gens me voient. D'accord, mais si vous prenez une projection, là, elle me dit, mais c'est pas grave. Je dis, quand même, tout de même, moi, je peux être celui qui a tué Tom Cruise, quoi. Et bien, effectivement, il a fait comme ça, il n'a pas accepté de laisser ses pieds sur la plateforme. Il a fait ce qu'il a voulu. En revanche, c'est quelqu'un de perfectionniste, très professionnel. Je me souviens que la phase de décollage, on décollait quand même jusqu'à à peu près 300 mètres d'altitude.
Et à quelle vitesse ?
On était entre 100, 105 nœuds et 135, et surtout pour éviter d'avoir une vitesse en termes de vent relatif trop importante pour lui. Sinon, après les opérations au sol où on le voit courir sur l'aile, effectivement, il courait, mais il était attaché avec une ligne de vie, un harnais. Ouais. Mais c'est bien lui qui a fait ces opérations-là. Quoi.
Et c'était combien de vols
On a fait 8 vols, et les roulages, on en a fait, moteur tournant, on en a fait 16. Parce qu'en fait, chaque séance était répétée, et à chaque fois, il y a quelque chose qui n'allait pas. J'étais dans le cargo de l'avion avec McCarthy, le directeur de toute la production. Donc il était en contact radio avec Tom Cruise, et à un moment donné, Tom lui dit bah, c'est bon. Donc McCarthy me regarde, me dit Eric, c'est bon, c'est terminé. Je préviens les pilotes, c'est bon, les gars, c'est fini. Tom est content, donc on arrête, on va au parking. Là, il regarde la vidéo, non, ça va pas, on repart, on recommence. Le problème, c'est qu'il faisait 6 degrés dehors, et avec le vent relatif, la température sur son corps, il était gelé, quoi. Donc chaque fois, il rentrait, il mettait les doudounes, il allait se réchauffer. Jamais eu ça. Il voulait la perfection, et il l'avait.
Voilà. Et c'est quelqu'un qui aime les avions?
Ah oui, c'est un passionné. Il a volé cockpit avec nous après, quand même, tout de même. Bah, il est extraordinaire. C'est un passionné, il adore ça. C'est bon.
C'est lui qui a mis au point le passage 120 degrés. Hein.
Je pense pas. Bon. Je pense qu'il aurait aimé faire ça. Ouais. Bon, on l'a pas fait. On s'est limité à 90, mais
c'est déjà pas mal.
Mais il était heureux. Hein. Quand on a fait ça, il était heureux. Waouh.
Il a le PPL, Tom Cruise, donc c'est un vrai passionné. Je crois qu'il a même un P-51.
Oui, il a un avion, bien sûr.
Et c'est lui qui le pilote dans le dernier Top Gun.
Oui.
Ah oui.
Ouais. Le film que tu n'as pas vu.
Non. Belle machine. Hein.
Ah, wow. Ouais. Masso 67, merci Masso de nous rappeler, parce que c'est vrai qu'on est en train de partir un peu en vrille. À propos de cascade, on a déjà abordé les performances de vol. Non. Quelques chiffres pour nous impressionner.
La masse de l'avion, 141 tonnes. Quand même pas mal.
Au décollage.
Oui, au décollage.
Donc, masse maximale.
Max. Quand même pas mal. Même si on a démontré 143 tonnes lors de l'essai Max Energy, où on détruit les freins.
On a vu des images tout à l'heure de pompiers qui refroidissent les freins. Après la...
Sinon, après, une soute de 17,70 mètres, de rentrée... C'est le VBCI de 28 tonnes, mais aussi un ensemble complet Patriot, donc le tracteur et sa remorque. Et ça, c'est une opération qu'on a fait à El Paso, au Texas, aux États-Unis, en marche arrière. Donc je ne vous dis pas, avec la remorque attachée.
Ah oui, d'accord.
D'accord. Et ça, il n'y a aucun avion qui est capable de faire ça, à part le C-17. Okay. Et sinon, les opérations sur les pistes non préparées, sur herbe, latérite, gravier, mais aussi sur la plage à Pembrey, comme
en Grande-Bretagne.
En Grande-Bretagne, ouais. C'est un truc de fou. Quoi. Voilà.
Vitesse
Vitesse, c'est 302, ouais. Maxi, et le Mach 0,72.
À quel niveau de
vol? 37 000 pieds, et ensuite Mach 0,72 jusqu'au niveau 400.
Donc on approche presque les performances d'un liner.
C'est les performances d'un liner, c'est clair.
Le fait que ce soit un avion qui possède une certification civile, est-ce que ça lui permet de voler dans l'espace aérien avec les liners?
Comme l'avion est certifié donc EASA, il peut partout, voler partout, sans demande de dérogation spéciale. Pourquoi ? Parce que quand un Transal se déplace ou un 630...
Il n'y en a plus.
Le 630, par exemple, il lui faut une dérogation. D'accord ? Donc demain, un A400, il peut aller dans les pays du Golfe, en Asie, Nouvelle-Zélande, Australie, avec un plan de vol civil.
Ça, c'est une vraie révolution pour l'armée de l'air, qui avait l'habitude, droguée aux dérogations pendant des années et des années, et qui aujourd'hui, effectivement, peut se donner une envergure planétaire avec la 400, puisqu'on l'a vu jusqu'à Guam, la 400 est allée partout dans le Pacifique.
Après, c'est aussi son autonomie, quand même. Un avion qui fait Orléans, Bamako, en vol direct avec 17 tonnes à bord...
Je veux dire, ça change la vie.
Ça change la vie.
Quand vous dites ça change la vie, ça veut dire quoi? Avant, comment on procédait?
Il te fallait 4 Transal.
Pour
un A400, il te fallait 4 Transal.
Avec des étapes en plus.
Oui, bien sûr, mais à peu près, ça te faisait 4 Transal. Bon, ça change la vie, quoi. Beaucoup plus d'équipage.
Bien sûr. Voilà. Et puis, une vitesse plus faible.
Jusqu'à l'arrivée de la 400M, c'était les Antonov qui faisaient l'émission, Antonov 24 notamment. Aujourd'hui, tu as plus besoin d'avoir.
124.
124.
Et pour donner un ordre d'idée, un moteur de la 400, donc un TP400, un seul moteur, c'est deux fois la puissance d'un Transal.
Tout à fait. Un peu plus.
Un peu plus.
2,2, 2,3.
Ouais. Sur un seul moteur, c'est ça qui est incroyable.
Tout à fait.
Incroyable.
Ouais, on voit quelques images des essais sur piste, sur piscine, à Istres. Donc ça, c'est pour évaluer l'ingestion d'eau dans les moteurs et le comportement au niveau du freinage et des trains d'atterrissage et des hélices.
Voilà. Alors il y a un truc qu'on ne voit pas sur les images qui est intéressant à citer aussi. Sous la peau de l'avion, maintenant, on met des revêtements. Ça ressemble un peu à du néoprène, enfin qui sont collés sur la peau de l'avion.
Là, c'était pour les essais.
Oui,
d'accord.
Non, mais en unité aujourd'hui, en opération.
Comme ça, c'est des kits.
Ils reçoivent des kits de protection contre les projections.
Mais c'est suite aux essais qu'on a effectués, où on a identifié tous les endommagements, et on a dit, il faut prendre ce kit-là, en plus, pour les opérations.
Alors, l'armée de l'air, on est très contents, les AIA aussi, mais ils sont moins contents quand il s'agit de les ateliers de l'industrie, ateliers industriels de l'aéronautique.
C'est-à-dire ceux qui entretiennent les...
Qui font l'entretien lourd, qui sont aussi, pour le coup, très impactés, puisque ça, c'est Clermont-Ferrand, où tu as des installations incroyables des AIA, et ils ont de quoi abriter 1, 2, 3, 4, 5, 5 à 400 simultanément. Ce qui est un bon indicateur de l'augmentation de la flotte en France.
Effectivement,
t'en es 20 sur le parking à Orléans, mais t'en as 5 qui sont en maintenance, en permanence.
Mais après, opérer 50 avions à partir uniquement d'Orléans...
Oui, ça va être...
Ça va être chaud. Hein.
Mais la base a été complètement refondue et transfigurée par l'arrivée de...
50 avions.
Il y a du foncier encore, et puis ça se négocie. Mais je crois que ça fait partie des attributions en cours du commandant de base de négocier des terrains supplémentaires pour agrandir la base. Oui.
Quelles sont les capacités défensives en opération de la 400M?
Alors défensive, c'est-à-dire au niveau autoprotection?
Je pense que ça doit être ça.
Ah ok, parce qu'il n'y a pas d'armement tirable. Hein. C'est un système classique d'autoprotection avec détection de missiles, de départ missile et largage de leurre. Voilà.
Je regarde les images et je m'interroge sur la conception ingénierie des pneus. Y a-t-il une conception différente de ce type d'avion pour ce type d'avion?
Non, c'est un peu comme le Transal, c'est-à-dire qu'on peut faire des opérations avec des pneus sous-gonflés.
Sous-gonflés.
Oui, quand tu opères des terrains meubles, tu réduis la pression dans les chambres.
D'accord. Tu le commandes depuis l'avion, ça?
Ah oui, tu peux le faire.
Et tu peux regonfler depuis l'avion
aussi? Oui, tout à fait.
D'accord.
D'accord. Et ça c'est mis au point avec l'équipementier?
Oui, bien sûr. Ça, c'est Messier Dotti. Oui.
Combien de roues sur l'avion, d'ailleurs, au total?
Tu as 3 rames de 4.
D'accord.
C'est assez intéressant pour les freinages.
Une question concernant donc, le largage d'eau. Bombardier d'eau, Airbus a fait plusieurs essais de largage.
Tout à fait.
Est-ce que tu peux nous en parler?
Oui, c'est un kit qui est installé sur l'avion. de trop grosses modifications. C'est simplement installer un kit à bord de l'avion, mais qui permet de larguer jusqu'à 7 tonnes d'eau à peu près, d'accord, en même pas, je crois que c'est 12 secondes, 12 ou 14 secondes, quelque chose comme ça.
Ce qui n'est pas énorme, hein, finalement, cette
tonne d'eau, la capacité de l'avion. Bien sûr.
Pourquoi mettre un avion à 110 millions, 120 millions pour larguer 7 tonnes d'eau
alors... Après, pourquoi laisser les avions au sol? Tu vois ce que je veux dire?
Oui.
Ok. Alors que tu as des incendies partout et que tes canadiens sont... HS, tu voilà, c'est qu'un kit.
Oui, mais il faut installer les pilotes.
Surtout si tu as 50 avions.
Oui.
Ah oui, bah bien sûr, il faut la qualifier. Mais la machine est extraordinaire.
Ouais.
La machine, en termes de comportement en vol, c'est pas un Canadair. Hein. À la pire, justement, on te fait tester le Canadair. Mais après, quand tu montes sur un Airbus, waouh, oh, la différence. Mais c'est comme un Transal, passer du Transal à la 400M, ouf.
C'est changé de
quelle étape.
C'est quoi
les commandes de vol électriques en largage, par exemple. Largage de char, on va dire 16 tonnes. Ben, tu vas te retrouver avec un avion qui va faire ça, puis d'un coup, parce que le centre de gravité...
Il va passer par la longueur de la soute. Ouais.
Tout ça, sur un A4CM, est pris en charge par les commandes de vol électriques. Sur un Transal, c'est à la main. Quoi. Et le pilote, ouf, d'un coup, sur un Canadair, c'est pareil. Tu fais la même chose, quoi. Donc, la charge de travail, elle est énorme. Tu as un pilote, il fait que ça. Sur un A4CM, le cocher, il est comme ça, avec son joystick, quoi. Il prend un degré de changement d'assiette au moment du largage. C'est-à-dire que c'est que dalle, quoi.
Voilà. On les reconnaît bien, les pilotes Transo, ils ont des biceps énormes, et Transal, ils ont des petits bras...
Ouais. Non. Moi, j'ai vu des petits sur Transal avec les gouttes. Et pour le ravitaillement en vol, c'est pareil.
Ouais.
C'est-à-dire qu'un ravitaillement en vol, on voit des vidéos sur Transal ou à Wax ou autre. Tu vois, le gars, il est buté de gouverne comme ça. Tu dis, waouh, le pauvre. Il transpire. Hein. Et il doit tenir 20 minutes comme ça. 20 minutes. Le mec, il est lessivé. D'accord.
Et après,
il faut qu'il fasse une mission. Quoi. Heureusement qu'ils sont deux, quoi. Ou voire trois. Sur un A400, ravitaillement, on a mis au point, grâce à mon ami Didier Ronceret, on a mis au point une loi hélicoptère, tu peux, on va dire. Vraiment, tu fais ça, clac, l'avion, il a des déplacements extraordinaires. Pour entrer dans le panier, je dis pas que c'est simple, mais quand même, c'est aisé, quoi.
Mmh, ouais.
Mais grâce aux commandes de vol électriques. D'ailleurs, on n'a pas parlé du suiviteur automatique de l'avion.
Parlons-en, alors.
Ben oui.
C'est quand même un truc assez extraordinaire sur un avion de transport, ça. C'est un système qui était jusqu'à présent réservé à des avions de
combat, tout à fait.
Alors là, vous êtes tous les deux des spécialistes. Qu'est-ce que c'est que le système de suivi de...
Ben, c'est un système qui permet à l'avion, en automatique, de voler à très très basse altitude, on va dire entre 100 et 250 mètres
du sol.
Du sol, quoi.
Donc, de jour comme de nuit.
De jour comme de nuit, par tous les temps. Aujourd'hui, dans une opération d'aérolargage, quand la météo se dégradait, c'était demi-tour.
Demi-tour,
ouais. Eh oui. Eh oui, t'as pas le choix. Là, aujourd'hui, c'est j'enclenche le système de suivi de terrain, et hop, l'avion, il suit le terrain. Voilà, quelle que soit la météo. Ça, c'est quelque chose d'assez fantastique. J'ai participé à la mise au point du suivi de terrain sur le Mirage 2000N, sur le 2000D, où là, on a intégré le suivi de terrain fichier, ensuite sur la Rafale, avec le suivi de terrain fichier, et ensuite, je pourrais dire que j'ai qualifié et certifié le suivi de terrain automatique sur la 401. C'est extraordinaire. C'est une capacité donnée à l'avion qui permet d'opérer par tous les temps. Et ça, c'est quelque chose que personne n'a fait.
Voilà. Alors, je vais me faire l'avocat du diable en parlant un peu de sophistication de l'avion, sachant que le mot sophistication a un côté très négatif aussi, hein, puisque c'est un accès à quelque chose. Et donc, est-ce que tu penses que la 400, d'une certaine manière, a été victime de ces exigences sophistiquées, entre guillemets, que ça vienne des bureaux d'études industrielles qui ont poussé la roue pour développer des systèmes
complexes,
inutilement complexes, peut-être?
Alors, je pense pas...
Ou est-ce que ça vient des utilisateurs, du cahier des charges
Non, je ne pense pas qu'aucun utilisateur demande d'avoir un système complexe ou sophistiqué. Il donne un cahier des charges avec une mission à réaliser et des performances.
Il est parfois un peu trop ambitieux, ce cahier des charges.
Ça, c'est clair. Ouais. Quand les Allemands demandaient un suivi de terrain automatique avec du TRN, terrain référent de navigation, c'était quand même quelque chose qui, aujourd'hui, avec les GPS... comme on a, bon, il n'y a pas besoin de tout ça. À l'époque,
surtout les Allemands.
Les Allemands demandaient ça.
Vu le nombre de guerres qu'ils peuvent faire.
Mais non, mais ils opèrent jamais comme ça. Donc tu dis, c'est effectivement, c'était, on va dire, un besoin exprimé qui, de mon point de vue, ne servait à rien. Franchement.
D'accord.
Mais qu'on a développé pendant 6 années, quoi.
Ah oui, quand même.
D'accord.
On fera un dépose minute dessus un de ces jours.
Oui. Bon, ok. Mais on a tellement. On a développé beaucoup de choses. Pour rien, pas sur cet avion, mais sur d'autres avions aussi, quand même. Hein. C'est pas la première fois que je vois ça.
C'est un peu comme ça qu'on progresse aussi.
Oui. Après, par exemple, tout à l'heure, on parlait de la certification civile. On a accusé Airbus d'avoir fait une certification civile trop complexe. Non, c'est n'importe quoi de dire ça. C'est complètement idiot. La certification civile, elle garantit un niveau de sécurité jamais atteint sur un avion militaire. Et surtout, ça permettait d'avoir une base commune à toutes les nations. Mais au départ, c'était ça. Ouais, vous voulez faire un avion trop complexe. Non, c'est rien à voir. Après, les systèmes complexes, quand on parle de système d'autoprotection, c'est clair que c'est complexe. Mais il faut ça. Il faut faire ça. Le cargo, là, oui. Là, c'était un peu trop complexe.
Dans quel sens ?
Dans le sens, si tu veux, de la logique informatique.
Quand tu dis le cargo, c'est la gestion de la soute.
Tout à fait. La gestion de la soute avec notamment les X-Lock, qui sont les points d'attache des palettes avant,
les crochets, donc,
avant largage. Ouais. D'accord ? Et faire un système automatique comme ça, aussi complexe, ça a été un défi extraordinaire. Après, il est évident qu'on peut mettre ça sur le dos, sur le fait qu'on n'a pas eu assez de temps à l'époque, avant de commencer les essais en vol, d'identifier tous les problèmes. Et les problèmes, ensuite, ont été vus en vol. Mmh. Ce qui fait que ça a retardé le développement, la certification du cargo de, on va dire, 3-4 ans.
Ah oui ?
Ça aussi. Eh oui.
D'où une certaine limitation opérationnelle aussi. Donc, il y a
tout à fait. C'est pour ça qu'au départ, l'avion a été livré avec des restrictions d'opération.
Ça paraît beaucoup. Quand même assez ahurissant, une chose aussi simple que la gestion d'un cargo et le largage de charge.
Mais quand tu fais des choses sophistiquées avec rampe ouverte, parce qu'au départ, il fallait voir les logiques de ouverture des crochets et de fermeture des crochets.
Et on ne peut pas le faire en manuel, tout simplement.
Et non, là, on ne pouvait pas. Ouvrir les crochets pour le largage, oui, mais fermer la porte. La rampe était formée, mais après, tu ne pouvais plus toucher les locks. Donc ça, c'était et ça te déclarait une rampe non fermée. Donc obligation de descendre pour dépressuriser et des itérations sur la mécanique, la logique informatique. Je sais pas, peut-être 16 ou 18 logiciels différents.
Ouais, bon.
Mais bon, on y est arrivé puisque maintenant ça fonctionne bien.
Par rapport à un programme civil.
Oui.
On développe un avion
Un programme civil,
de façon beaucoup plus rationnelle, non ?
Un programme civil, la mission est unique, c'est le transport de passagers et de fret d'un point A à un point B. On va dire qu'il y a 3 items dans un développement. Il y a l'ouverture du domaine de vol. Ensuite, quand je dis ouverture du domaine de vol, c'est le calage des protections, donc les basses vitesses, les grandes vitesses, etc. Ensuite, tu as l'aspect moteur. Et le troisième, les performances. Où là, des performances, on va en déduire l'AFM, donc Aircraft Flight Manual, donc le manuel de vol. Donc on va faire des essais de freinage, on va faire des essais de décrochage, on va faire des essais de décollage avec réduction moteur, coupure moteur, etc. etc. Et ces 3 items, on les mène en parallèle et on arrive au bout de, on va dire, entre 18 et 24 mois à une certification civile. Pour tout le programme, c'est pareil.
C'est bien cadré, c'est ça.
Ah, c'est cadré.
Il n'y a pas de roue à remonter.
Les documents de certification sont connus, établis, communs à tout, validés par donc EASA et puis FAA. Donc c'est assez, on va dire, pas routinier, mais c'est habituel, on maîtrise. Pour les opérations militaires, c'était beaucoup plus compliqué, parce que là, on rentre dans les requirements des clients. Et chaque nation avait des exigences différentes. Donc, il a fallu écrire ce qu'on appelait à l'époque les military CRI, military certification review item, qui étaient des exigences de certification militaire. Et on a mis 4 ans pour rédiger ces exigences, qui n'existaient pas au lancement du programme. Donc 4 années pour convenir avec les 7 nations de ces items. Donc ça aussi, ça rajoutait de la complexité dans la réalisation de la mise au point.
Voilà. Ça veut dire que certains clients sont prêts à faire des concessions et à adopter des exigences
relâchées.
Ouais.
Mais là, ça n'a pas été le cas. Pourquoi ? Il y avait un seul document de certification militaire. Donc souvent, il y a eu des combats, même rudes entre nations. Moi, je veux ça. Moi, je veux pas ça. Il a fallu les mettre d'accord. Et je peux vous dire que c'était pas simple. Des mois de palabres.
Il y a eu du sang sur les murs.
Pas de sang, mais franchement, est-ce qu'il avait envie de jeter l'éponge. Hein. Il fallait s'entendre. C'est tout. Les réunions étaient houleuses, compliquées, des batailles, en fait, pour arriver à des compromis. Voilà. Les Français étaient beaucoup plus souples. Pourquoi ça ? Parce qu'habitués à faire des opérations. Quand tu es habitué à faire les opérations...
Pragmatique, donc.
Tu es pragmatique, ouais. D'accord ? Quand tu ne les fais pas, les opérations, tu inventes un petit peu. Donc là, oula, tu prends
la tête.
Ouais. Tu prends un requirement américain, tu dis, voilà, je veux ça. Ok, d'accord, vous avez vu, ça, c'est pas du tout adapté à la 400M. Non, je veux ça. Ok, bon, il va falloir l'expliquer différemment. On reprend tout. Ouais. Et quelquefois, tu avais en face de toi des administratifs, pas des opérationnels. Alors que la France, à chaque fois, la Malaisie, la Turquie, ou les Espagnols, à chaque fois, c'était des opérationnels. Mais au début, on avait des programme managers qui étaient des administratifs.
Difficile à leur expliquer la vie, quoi.
Et là, bon, tu dis, bon, ça va être compliqué, je sens. Mais on y est arrivé. On a mis 4 ans, mais on y est arrivé.
Et aujourd'hui, à part la France, est-ce qu'il y a d'autres pays qui utilisent la 400M de façon
comme
aussi
nous,
intensive ?
Comme nous, comme les Français, les Anglais.
Les Anglais ?
Ouais, c'est les seuls.
Ils en ont combien, les Anglais ? L'ordre d'idée ? 24 et ils les utilisent de la même façon ?
Ah ouais, pareil.
Avec cette différence que les Anglais ont retiré leur flotte de Hercule, ce qui est assez incroyable, des C-130J, qui n'étaient quand même pas vieux.
Oui. Mais après, c'est les problèmes de maintenance.
Oui. Ça, oui, oui. Mais tout de même, donc ils se retrouvent un peu le bec dans l'eau avec une flotte. Alors, ils ont des C-17.
Eh oui, ils ont le C-17 quand même.
Ils sont riches. Mais ils ont quand même une flotte de
A4. Et les autres pays, les utilisent comment leurs
A400M ? Les Turcs, eux, chaque mission, c'est mission de guerre, pour eux. La réponse, c'est ça. Quoi.
Est-ce que les pilotes des nations utilisatrices partagent-ils leur expérience ?
Oui, parce qu'ils font des opérations combinées. Et en plus, il y a beaucoup d'échanges, notamment avec les Anglais et les Allemands.
Il y a un groupe d'utilisateurs, je pense, aussi.
Oui, tout à fait. Il y a comme une messe, comme une équipe de marque, mais ça ne s'appelle plus comme ça. Et là, tu trouves des Anglais, des Allemands, des Espagnols.
Et ça fait progresser l'utilisation de la 400M.
Ah ben bien sûr. Là, par exemple, actuellement, les Anglais sont en train de certifier le largage des bateaux à partir de la 400M. Les bateaux, c'est des
embarcations.
Des embarcations, on va dire, pour l'effort spécial. Les Français ne font pas ça, mais... Oui, mais ça les intéresse. Ils disent, on est intéressés.
Ça a commencé déjà, larguer des charges.
Les Français
à travailler.
Oui, ah, ok, d'accord.
Bon, quelle altitude ?
Très basse altitude.
Non, pas forcément.
Bon,
pas
à 40 000 pieds, t'es pas à 10 000 pieds.
Non.
Voilà, t'es à 300 mètres maximum.
Mais il y a quand même des parachutes et tout ce qu'il
faut. Oui, bien sûr. Mais le parachute, il est là pour freiner, uniquement, pas pour porter le bateau. Quoi.
Qu'appelle-t-on équipe de marque ? Parce que c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé. Ouais. Donc c'est quoi une équipe de marque ?
Une équipe de marque, en fait, c'est sur un avion de combat, c'est un pilote ou deux pilotes. Un pilote, un navigateur, qui est nommé au début du lancement de programme et qui va participer à toutes les réunions programme et représenter la nation.
C'est un pilote militaire de l'armée de l'air la marine.
Tout à fait.
Voire de la latte quand il s'agit
d'hélicoptères. Oui, des hélicoptères, tout à fait. Ouais, c'est ça.
D'accord.
Et souvent avec une équipe d'ingénieurs. Représentatif pour chaque domaine de l'avion. À l'équipe de marque Mirage 2000 ou Rafale, on avait entre 30 et 40 ingénieurs qui étaient souvent des mécaniciens, donc des spécialistes dans leur domaine, et qui se battaient bec et ongles en face de grands pontes de Dassault, ou voire même d'Airbus, pour obtenir leurs exigences, quoi.
Je reviens un peu en arrière, il y avait une question sur la vitesse à laquelle se fait le suivi de terrain.
302 maximum.
302
Oui.
C'est déjà beaucoup, hein. Quand tu as 100 mètres du sol et que tu montes...
Alors après, non, c'est clair, mais l'avion est certifié pour faire ça.
Oui, oui.
D'accord.
Moi, je reviens en deux secondes sur les pilotes allemands et l'utilisation de la 400 par les Allemands. Parce que quand tu parles, j'ai eu l'occasion de parler avec des jeunes pilotes qui étaient en formation, des futurs pilotes de transport. Et quand on leur demandait vers quel avion ils souhaitaient se diriger, leur premier choix était le C-130. Parce qu'ils pensaient à l'unité franco-allemande de C-130. Et ils pensaient peut-être à faire des OPEX et des choses un peu intéressantes tactiquement. D'accord. Et ils me disaient que la 400, bah, c'était faire du transport du point A à un point B. Et pour eux, ça n'avait pas un intérêt énorme. Quoi.
Je pense que ça va changer.
Mais voilà, c'est la vision qu'ils avaient à l'époque.
Avec la situation actuelle, je pense que ça va changer tout ça.
D'où il vient le radar de la 400, d'ailleurs?
Alors, c'est bizarre, parce que c'est un dérivé.
Oui, c'est sur le cas.
Et
on repart jamais rarement de
bien
zéro.
Bien sûr, bien sûr. Et j'ai retrouvé des fonctionnalités de l'Arcana, qui était le radar du Mirage 4.
On peut faire un petit break. Moi, j'ai des publications à te présenter, si tu veux. On va rester dans la 400, parce que tout ce que vous a dit Eric, enfin, une partie de ce que vous a dit Eric, vous pourrez le retrouver dans ce numéro Planète Aéro des éditions La Rivière, avec une couverture que je qualifierais de bizarre. C'est la version bombardement piqué de la 400.
Ouais, super.
Non, tu la trouves jolie?
Ah oui.
Ah ouais,
moi, j'adore.
Bon.
Waouh.
Ben, écoute alors.
Il y a une tactique.
Oui.
C'est une prise de terrain, une prise d'axe.
Voilà. Donc, avec pas mal de choses et intéressantes et des récits. Et donc, Eric, tu avais mal participé à cette publication.
Super simple. Vous pouvez encore le trouver. Ça coûte pas cher. Hein, 8,80 €. Donc,
4 litres d'essence.
Voilà.
Et puis un petit truc aussi que je voulais vous présenter, un petit bouquin de Pierre-Yves Leviavant, pilote de drone, aux éditions Les Belles Lettres. C'est un bouquin, alors je ne l'ai pas encore terminé, c'est un bouquin très intéressant parce que c'est, à ma connaissance, c'est le premier témoignage d'un pilote de drone de l'armée de terre, pour le coup, drone Sperver. Okay. Qui a été utilisé, alors le bouquin tourne autour de l'Afghanistan, qui a été utilisé en Afghanistan, et c'est passionnant parce qu'encore une fois, c'est un éclairage qui est peu connu.
Donc, voilà. C'est aux éditions Les Belles Lettres, Mémoire de guerre, et ça coûte 21,50 €. Et vous pourrez...
10 litres d'essence.
Voilà, oui, et vous pourrez bientôt lire la présentation dans aérobuzz.fr.
Oui, encore une page de pub. Oui, tiens, ça c'est pour moi, c'est la page de pub. Achetez, lisez Avion de combat, qui est un trimestriel fascinant. Très belle création des éditions Amdal, avec de l'amour, de l'émotion, des avions. Et un peu de maquette à la fin.
Et un auteur vedette.
Oui, oui, oui. Qui essaie de gagner sa croûte.
Qui s'appelle...
Moi-même.
Lui-même.
Frédéric, moi-même.
Donc voilà. Frédéric est le pilier de ce magazine.
Pour la partie reportage, oui. Ouais. Et derrière, il y a une grosse partie maquette, mais j'en suis pas du tout le pilier.
C'est un... quoi ?
Trimestriel.
Un gros trimestriel de 100 pages. Qui coûte 12 € en France métropolitaine.
Ouais.
Qu'est-ce que vous voudriez qu'on retienne de cette émission, la 400M, sur la 400M ?
L'avion, le meilleur avion au monde de transport tactique, stratégique, militaire. Aujourd'hui.
Et il n'y a pas photo.
Et il n'y a pas photo. Là, c'est sûr. Le plus safe, franchement, c'est... une machine extraordinaire, et j'espère que d'autres nations dans le monde vont le commander. Ils bénéficient de technologies extraordinaires, de qualités de vol fantastiques, similaires aux avions Airbus, avec les fonctions militaires. Et surtout, quand même, ils donnent un gap par rapport au Transall ou Hercule qui est fantastique.
Alors pour finir et pour faire plaisir à Masso 67 et je pense à tous nos viewers, est-ce que tu aurais une dernière anecdote?
Donc ça, c'était un avion de l'armée de l'air qui était opéré par l'armée de l'air au Burkina Faso. Et ils sont tombés en panne d'un moteur au Burkina Faso. Et
pendant les opérations, donc dans le Sahel. Hein,
les opérations, c'était plus que des opérations, c'était la guerre.
Oui.
Donc c'était vraiment la guerre. Et d'ailleurs, les troupes étaient en train d'envahir l'aéroport. Et donc le ministère a dit, il faut rapatrier l'avion, on ne peut pas laisser un avion comme ça, un avion moderne et autre, non, c'est pas possible, il faut le rapatrier. Et les armées ont dit, mais désolé, mais la certification 3 moteurs n'est pas encore obtenu, donc nous on sait pas faire. Waouh! Donc là ils ont fait appel à Airbus. Airbus a dit ok, on va faire. Donc les forces spéciales se sont posées à Istres avec un Falcon. On récupérait l'équipage d'essai dans lequel tu avais donc un demi-pilote, un de mes navigants, un pilote de l'armée de l'air, donc François, qui était pilote d'essai, qui est toujours pilote d'essai, et un ingénieur du CEV, navigant d'essai aussi. Et mon mécanicien navigant d'essai, Charles Escarpit, qui faisait partie du premier vol. Donc des Moussachu à bord.
Il faut juste préciser 30 secondes qu'à Ouagadougou, donc à l'époque, c'était les forces spéciales françaises qui étaient en place. C'était un tout petit détachement.
Tout à fait. Tout à fait.
Dans le cadre d'une opération, l'opération Sabre, je crois. Voilà. Qui était là. Et bon.
Donc là, le Falcon se pose à Ouagadougou. De nuit, lumière éteinte. Dépose l'équipage, l'équipage va sous l'avion, les forces spéciales avaient fait le plein avec les mécanos de l'armée de l'air, mon mécano a fait le tour de l'avion, l'équipage sous la voilure enfile la combinaison de vol et monte dans l'avion et roulage, mise en route avec les trois moteurs, procédure articulaire pour ce genre d'opération, et décollage avec trois moteurs, voilà. Et retour direct sur Orléans.
Sur trois moteurs.
Niveau de vol avec trois moteurs, niveau 310, ce qui est quand même pas mal. Quoi.
Donc finalement, l'avion, il aurait pu être fait avec trois moteurs, c'est tout.
Ben non, justement, il a fait quatre comme ça, quatre pas de moteur, il peut encore se soustraire à des menaces.
Et, voilà. Et ce qui est extraordinaire, que tu n'as pas dit, mais c'est que l'avion a décollé, et derrière eux, l'aéroport, il a éteint l'aéroport, il a fermé l'aéroport.
Aéroport fermé.
Oui,
voilà. Aéroport fermé.
Ils ont eu un problème, là, ils pouvaient pas faire du tout.
Et deux jours après, l'aéroport était complètement envahi. Donc sage décision du ministère. Et j'étais en contact avec l'attaché du ministère à Paris et le colonel de la base de Orléans qui a accueilli l'avion, parce qu'ils sont arrivés à 4h du matin. Quoi. Donc là, l'accueil était pas grand monde. Quoi. Mais quand même, opération difficile à réaliser. Et depuis le tri-engine ferry, donc l'opération avec trois moteurs a été certifiée. Donc maintenant, les forces peuvent le réaliser.
Et ce qui est beau, c'est qu'habituellement, ce genre de choses, on essaye quand même avant de la préparer au simulateur, de faire des...
Ah non, on le fait. Le fais. Ah bien sûr.
Là, d'accord, ils l'ont
fait. Ah oui, non, c'est clair.
D'accord.
Ah oui, non. Tout était préparé au simulateur avec l'équipage, cet équipage-là, à Toulouse, sur les simulateurs d'Airbus. Quoi.
Donc comment on décolle à trois moteurs, c'est...
C'est une procédure comme sur le 630 avec le FTB, c'est-à-dire que du côté du moteur, il est coupé et il n'y a rien. Donc du coup, tu alignes une puissance réduite sur les deux moteurs à droite, par exemple.
De là, l'opposé, oui.
Pour symétriser la puissance. Et une fois que tu as passé la VMCG, tu pousses les moteurs à la pleine puissance. Quoi.
Voilà. D'accord.
Et il est évident que l'avion non plus n'est pas à sa masse maximale et que...
Voilà. Ah non, c'est clair. Là, on avait juste du pétrole. Hein.
Oui.
Là, il n'y avait rien d'autre. Hein. Le pétrole pour entrer sur Orléans direct.
Direct, ouais. C'est ouais. Ça qui est beau aussi. Hein.
Ah oui, c'est extraordinaire. Quoi. Et on a sauvé un avion. Parce que sinon, je ne te dis pas, là, c'est clair que l'avion, il n'existerait plus.
Il était transformé en
Scooby-Doo. Il aurait été cramé ou je ne sais pas quoi. Quoi.
Eh bien, merci Eric.
Mais c'est moi qui vous remercie de m'avoir accueilli.
Surtout, on finit sur une superbe anecdote. Merci aussi à toi.
Merci à mon producteur, Gilles.
C'était encore une très très bonne émission. Suivez-nous sur les réseaux, sur TikTok, Instagram, Facebook et autres, où vous pourrez avoir les morceaux choisis, des shorts et puis des extraits un petit peu plus grands. Jeudi 29, grande frequency en direct de l'Aéroclub de France à 20h. Vendredi 1er mars, un nouveau lâcher solo à 18h. Et puis nous, on vous retrouve, donc le plateau ici, le mardi 5 mars, et nous aurons comme invité Clémentine Gallet. Alors Clémentine Gallet est la patronne d'une entreprise qui s'appelle Coriolis Composites, spécialisée dans les composites, qui est un des acteurs majeurs de la filière aéronautique. Elle est sur Coriolis et sur tous les principaux programmes industriels. Mais elle est aussi donc... la présidente d'Aéro-PME au sein du GIFAS, un groupement des industriels français de l'aéronautique et du spatial. Avec elle, on va parler des opportunités de carrière qu'offre l'industrie aéronautique. Et justement, on verra avec elle que les offres d'emploi dans l'aéronautique elles explosent, mais c'est pas concentré uniquement à Toulouse ou à Bordeaux. D'accord. Mais il y en a pas sur toute la France. D'accord. Cette année, c'est 4000 recrutements qui sont faits par les entreprises, de 200 entreprises, donc c'est énorme. Donc on va parler de ça, mais on va parler aussi de la manière dont toutes les PME suivent le rythme qu'impose Airbus. Clémentine Gallet, je peux vous garantir qu'elle n'a pas sa langue dans la poche. Donc c'est une émission qui va être aussi assez passionnante. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Merci à tous de nous avoir suivis. C'était très très sympa et vous avez pu constater que votre interaction a été très très bénéfique. Salut.